Bonsoir tout le monde. Nous ouvrons ce soir, 20 novembre, la deuxième séance de la quinzaine du Narthex 2023 sur le thème, vous savez tous maintenant, travailler, pourquoi. Et ce soir, ce sera soigner, pourquoi. Nous remercions la municipalité qui nous accueille dans les locaux de la Bourse du Travail. Merci à son gardien. Nous ne pouvions pas trouver mieux pour réfléchir au sens du travail aujourd'hui dans ces lieux. Merci à Jérôme Allais et son équipe qui vont filmer notre rencontre pour nous en laisser un souvenir et surtout un outil de retour et d'approfondissement de nos échanges. Merci à Jean-Michel Thilot qui n'a pas pu venir, mais qui nous a prêté matériel, piano et sono. Merci à vous tous d'être là. Mais nous remercions tout particulièrement Margot Smirnek et Guillaume Guéraud, qui nous font l'honneur et le plaisir de descendre jusqu'à Tarbes, depuis Paris ou Clermont-Ferrand, pour animer cette soirée. Margot et Guillaume sont tous deux anesthésistes réanimateurs et se sont connus dans le service de réanimation de l'unité anticancéreuse de l'hôpital Jean Perrin à Clermont-Ferrand. Ils se sont reconnus face à une situation de manque, une véritable frustration, la conviction intime que le soin oublie quelque chose, passe même peut-être à côté de l'essentiel. Quel est donc l'essence du soin ? La loi santé du 21 juillet 2023, hôpital, patient, santé et territoire, proposer à chaque citoyen un dispositif de soins territorial approprié. La Haute Autorité de Santé, en 2015, a remis à l'honneur ce principe, placer le patient au centre de sa dynamique de santé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le soin a-t-il perdu du sens? Comment prendre soin de l'autre, qu'il s'agisse du patient ou qu'il s'agisse du collègue au sein de l'équipe soignante. Pour exprimer, partager nos expériences, Margot et Guillaume nous invitent à un concert-conf. Qu'est-ce que c'est un concert-conf? La première partie, artistique, sous forme de concert, est une invitation, une proposition intérieure et collective destinée à révéler, témoigner, démystifier le soin, ainsi que la relation soignant-soigné et son entourage. La deuxième partie, j'espère, nous permettra à chacun de s'exprimer dans le cadre bienveillant pluriel de notre assemblée à propos de l'essence du soin, donné ou reçu. Nous laissons maintenant la place à Margot et Guillaume. Bon concert conf à tous et n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones. Merci.
J'aime ce trajet hors du temps, sur une route quasiment déserte. Les kilomètres qui s'enchaînent voient mon esprit s'évader, errer dans le passé. Je repense à ma première année de médecine, à ce qui m'a poussée à me lancer dans ces études, dans cette aventure. Je me repasse le fil de ces années, le choc de mes débuts à l'hôpital en tout début de deuxième année, la dureté de ce monde hospitalier, Moi qui naïvement pensais trouver un monde plein de bienveillance. Car comment pouvait-il en être autrement dans un lieu fait pour soigner, pour prendre soin? Mais il n'en était rien. La souffrance ambiante est partout présente chez les patients, avait probablement conduit les soignants à se forger une carapace pour l'endurer. Carapace qui créait une grande dureté dans les échanges, beaucoup de violence tapis dans les relations. Enfin, là était ma réflexion quand je suis arrivée en deuxième année de médecine. Je n'avais pas cherché bien plus loin à l'époque, cherchant peut-être à me préserver, en ne me posant pas trop de questions, pour tenter d'aller au bout de ces études. Aujourd'hui, mon trajet vers l'hôpital de Strasbourg me fait mettre tout cela en perspective. C'est étrange comme je suis partagée entre la conviction profonde d'être à ma place, en tant que médecin, en tant que personne engagée dans cette mission du soin, et ce sentiment de mal-être que j'ai lorsque j'ai l'impression de cautionner l'imposture de notre système qui prétend soigner, mais qui essaye en fait de vendre de la santé, de lutter contre la maladie et la mort, mais qui est un milieu de la vie. Si au début de mes études de médecine, j'ai accepté l'idée que les soignants s'étaient endurcis au contact de la souffrance de la maladie, je remets totalement cet avis en question aujourd'hui. Je suis convaincue que nous pourrions faire autrement, être plus humains, plus épanouis et plus heureux dans un système qui nous aide à cela, à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes.
Thank you. rentre chez vous. La maman, elle va pas bien du tout. Pas bien du tout.
Ce métier par conviction, pour mon prochain, même pour les cons. Mon question fric, c'est secondaire, je me sens pas là, de l'abbé Pierre. Je suis pas né dans la galère, pourtant putain, oui, j'ai souffert. Mauvais pensée, mauvais confrère, des idées noires et suicidaires, réalité virtuelle, vue de travers. Bon, je suis pas là pour me justifier, est-ce que je suis, est-ce que j'étais. Pas vraiment choisi d'être ici, si je suis bien né, peut-être toi aussi. J'avais forcé la tête baissée, sans vraiment savoir où j'allais. Je voulais aider, je voulais soigner. Je voulais aider, je voulais soigner. Voilà. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de vous parler. De ce métier auquel je crois. Ben, il y a des jours où j'y suis pas. Voilà. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de vous parler. De ce métier dont je rêvais, et de mes pensées avancées. Et me voilà en première ligne, une véritable mise en abyme, tellement fragile, faut pas que j'abîme. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Mon âme a mal, elle est si frêle, il faudrait lui faire pousser des ailes. Et plus je déraille, et plus je bataille, une escalade, je perds les pédales. Je me réceptionne et je me cramponne. Je me rattrape à la dernière corde avant de leur enlever du coup. Je suis médecin, un policier.
Voilà, j'avais besoin de vous parler de celle à qui c'est arrivé, de celui qui s'est résigné. J'avais besoin de vous confier tout ce que je peux pas oublier. Voilà, j'avais besoin de vous parler de celle à qui c'est arrivé, de celui qui s'est résigné. J'avais besoin de vous confier toutes celles et ceux que je peux pas oublier. Les années passent, les gens aussi. Ceux qui se lassent et ceux qui plient. Pendant que t'attends comme suspendu, les amants choquent sans issue. À chaque fois la même histoire se passe. Chaque fois le mec à la fin trépasse. Et je me demande à quoi ça sert. Et je me demande à quoi on sert. Je comprends plus les hommes, ni les femmes d'ailleurs. Leur place est-elle ici ou bien ailleurs? Si elle est ici, mais pourquoi Dieu lui est-il ailleurs? Pourquoi des gens souffrent pendant que d'autres s'en foutent? Et comment font ceux qui s'en foutent pour laisser les choses faire sans aucun doute? Alors je demande, oui je demande pourquoi on reste là. Là, à la regarder, forcée, pendant qu'elle se casse le dos toute la journée, toute seule, à la réinstaller. Faudrait-il être enfin docteur pour ne plus voir les souffrances et les peurs? Faudrait-il être enfin docteur pour ne plus entendre les pleurs? Si seulement c'était tout comme il était. Accepterais-tu le dixième de ce qu'on leur fait? La maltraitance est partout, je pose mon regard. Et je balance tout avant qu'il soit trop tard. Parce qu'à force de laisser faire, on s'accommode du mal qu'on peut refaire. Oui, on s'accommode du mal qu'on peut refaire. Il y a cette putain de bienséance, confraternité de merde. Et alors, tu t'écrases si t'es pas d'accord? Mais ce soir, je peux plus. Mort de tout, c'est déjà vu. Quand je suis déjà tard, même pas bourré, mais le cafard. Fallait encore y aller, faire bonne figure. Papa est fort, docteur assure. Docteur est fort, papa assure. Pour voir mes enfants grandir. Pour aller courir ou juste pour me sentir bien demain. Demain j'irai courir de nous. J'avais fait ce métier par conviction. Pour mon prochain, même pour les bons. Je voulais aider, simplement aider. Je voulais soigner, simplement soigner. J'avais envie de crier.
Le patient de la chambre 1 est en arrêt cardiaque. Sérieux, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien vu venir lors de mon tour il y a 2 heures. Je déteste ça. Je suis endormie depuis quoi? Une demi-heure peut-être? L'adrénaline qui monte. L'urgence. Le stress au milieu d'une tentative d'émergence du lit en sursaut. Mon corps ne sait plus où il habite. Il est réveillé comme s'il avait couru un sprint et en même temps encore à moitié endormi. Mon cœur s'accélère sur cette mise en mouvement rapide. Mon cerveau tente de retrouver ses esprits, remettre l'histoire du patient dans le bon ordre, évoquer les hypothèses diagnostiques de cet arrêt cardiaque, revoir l'algorithme de prise en charge en quelques secondes. Alors que pendant ce temps-là, mes bras se saisissent des quelques affaires nécessaires pour aller dans la chambre du patient, que mes pieds se mettent dans les sabots roses et que mes jambes marchent vigoureusement. Ouvrir la porte en me saisissant du masque FFP2 que j'ai laissé sur la poignée, quand je débarque dans la chambre peu de temps après le coup de fil. C'est vraiment rassurant de trouver une équipe que je connais bien, qui a déjà entrepris le déroulé de la prise en charge de l'arrêt cardiaque sans encombre, avec toute l'équipe de nuit présente dans et en dehors de la chambre, pour aider en même temps que veiller sur les autres patients. C'est là que l'esprit et le corps se dissocient, pour mieux prendre en charge l'urgence, considérant là le patient comme un objet, et plus vraiment comme un sujet, une fois réglée la question de « faut-il réanimer ce patient ?», qui a déjà heureusement été discuté en amont, en journée, de façon collégiale. Mon esprit donc est complètement dissocié de la personne qui est morte, à moins qu'on parvienne à la réanimer. Sinon, je ne peux pas agir en cet instant. Il s'agit de ne pas perdre de temps, de dérouler le protocole en équipe sans accroc si possible, masser, ventiler, compter, choquer. Cette nuit, pas d'intubation ni d'injection d'adrénaline. Le patient a rapidement retrouvé un rythme cardiaque efficace après le premier choc électrique externe et s'est réveillé pour reprendre une ventilation spontanée.
Bonjour docteur, venir demeurer votre avis presse. Je viens vous voir, je suis en stress.
renseigner sur le chou-fleur, vous comprenez.
Les hémorroïdes, oui, je connaissais, c'est vous qui m'aviez opéré. Déshabillez-moi, je suis à vous. Examinez-moi, vérifiez tout. Je crois bien que j'ai le mal partout. Heureusement, je m'en rends compte au moment où la personne décroche le téléphone. Je réalise que je me suis trompée. Mais alors, je rentre dans un état de sidération. Je ne sais plus vraiment quoi dire. Je vérifie qui j'ai appelé. Cette personne me demande si je me suis trompée. Je suis incapable de dire que oui. Les mots se bousculent dans ma tête. Oui, je me suis trompée au départ, mais non, vous êtes bien la fille de Madame X. Mais je suis désolée, je ne devais pas vous appeler. Votre mari maman va mieux cette nuit. Son état a continué de s'améliorer sur la soirée et le début de nuit. Vous me manquez, madame. Ma maman est décédée et vous n'osez pas me le dire. La personne au bout du téléphone est choquée et aussi sidérée que moi, je crois. Comment ai-je pu faire ça? D'habitude, je vérifie toujours trois fois le numéro et la personne que j'appelle avant de passer ce type de coup de téléphone annonciateur du décès d'un patient. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi n'ai-je pas dit oui lorsque la personne m'a demandé si je m'étais trompée? Je venais de me lever quelques dizaines de minutes après m'être couchée. Je suis sonnée de ma connerie. Dans un état un peu hagard, j'ai profondément honte. Je m'en veux. Comment ai-je pu faire ça à cette dame? L'équipe est là pour prendre le relais, parler à cette dame pour tenter de la rassurer, même si c'est bien tard pour cela. Je ne peux pas remonter le temps. C'est trop tard, c'est arrivé. Je n'ai pas eu la clarté d'esprit et le courage d'assumer mon erreur tout de suite, sans attendre, sans vouloir minimiser. Même si j'ai pensé bien faire au départ pour rassurer la dame, mauvaise idée, très mauvaise idée.
On espère.
comme celle qu'il avait déjà eue. Là-haut, et dans son cerveau, là-haut, et toujours plus haut, elle se pose des questions. Suis-je condamné à un autre horizon? Qu'on me réveille en pleine nuit, comme une cuite à midi. Comme coup de tonnerre en hiver, madame, vous avez le cancer. J'étais aux élites de ma vie, une femme heureuse épanouie, la quarantaine en vue à l'horizon. Madame, relevez-vous, madame, vous.
marcher sur personne. Masqué, il ne pouvait plus dévisager personne. Et pourtant, ils continuaient de marcher côte à côte, ensemble. Et pourtant, ils continuaient à se regarder, deux à deux, dans le blanc des yeux. Sur un chemin propre à chacun, en même temps que partagé par tous, sur un fil, le fil de la vie. Chacun a ses rythmes, chacun a ses places, unis par le fait de marcher pour conserver l'équilibre. Observant ce mélange, il vient des dessins, faits de fils de couleurs et de nuances de gris. Ils entendirent de la musique qui venait des fils qui vibrent et s'accordent entre eux. Ils sentirent la chaleur au contact des uns et des autres quand ils s'approchaient doucement pour se toucher avec délicatesse, se caresser et s'équilibrer. Lorsqu'ils résonnaient si fort qu'ils voulaient faire corps ensemble, ils se liaient pour un instant, voire pour quelque temps, faisant jusqu'à naître de nouveaux fils. S'ils avançaient parfois plus vite seuls, ils allaient plus loin ensemble, et certains s'étaient mis en route, arrivés au bout de leur fil. Pour que chacun puisse avancer solennellement sur son fil, ils comprirent qu'ils devaient tous prendre soin, de même sur leur fil, de l'autre sur son fil à côté, du vide contenant les fils, pour laisser de l'espace pour avancer. Chemin faisant, les fils devenaient de plus en plus nombreux. Il était maintenant quasi impossible d'avancer sur les fils sans se heurter, sans tomber, en regardant de tous côtés. Alors que les êtres humains se mirent à communiquer. Écouter surtout, parler un peu, pour garder l'équilibre et continuer d'avancer ensemble.
Et vous avez entendu, on a chacun nos manières d'exprimer nos réflexions intimes. Et donc l'idée de cette soirée, c'est de, une fois que nous, on vous a fait part de nos réflexions, de profiter de ce partage pour qu'on arrive à construire une réflexion collective pendant l'instant et le temps qui nous reste à passer ensemble ce soir. Donc pour la suite de la conf, du concert conf, c'est Margot qui prend la lettre.
Merci.
Et juste avant d'échanger tous et toutes ensemble, on va vous proposer la suite du chemin. Et pour ça, peut-être un petit cadre de sécurité, disons. Donc on a parlé de bienveillance. J'ai un ami qui aime bien dire que la bienveillance, c'est être dur avec les problèmes et doux avec les personnes. L'idée, c'est que voilà, chacun, chacune puisse parler en son nom propre et qu'il y ait une équivalence de toute parole. Et alors, avec une notion de confidentialité qui peut paraître un petit peu relative vu que nous avons des caméras, mais l'idée c'est que si vous ne souhaitez pas apparaître sur les images, vraiment de vous manifester à la fin de la conférence ou par mail dans les jours qui viennent. Et l'idée aussi peut-être de cette notion de confidentialité, c'est que si on entend quelque chose qui fait écho et qu'on a envie d'aller en parler à la personne juste à la sortie de la conférence, peut-être lui demander si cette personne est OK, parce que parfois on peut partager des choses dont on n'a pas envie de reparler derrière. Et voilà, dans cette même idée de souveraineté, ce qu'on vous propose, c'est juste des propositions, donc vous en faites ce que vous voulez. Et avant d'échanger tous et toutes ensemble, je vais vous inviter à prendre quelques instants juste avec vous, à voilà, vous installer. Bien confortablement, c'est bientôt une heure qu'on est là. Je ne sais pas si vous avez envie de vous réinstaller, s'il y a peut-être des tensions inutiles. Et voilà, peut-être juste prendre quelques instants. Si vous avez envie de fermer les yeux, vous pouvez laisser les garder ouverts. Et peut-être, voilà, juste. Peut-être se poser la question comment je me sens après ce que j'ai entendu, comment ça résonne pour moi. Et peut-être là, comme ça, sans chercher à mentaliser particulièrement, mais savoir qu'est-ce qui vient quand je me demande, pour moi, c'est quoi l'essence du soin. Et laisser venir ce qui vient. Pour moi, c'est quoi vraiment l'essence du soin? Et peut-être une dernière question. Comment je peux prendre soin de l'essence du soin? Et laisser venir ce qui vient. Et alors, pour peut-être poursuivre pendant 2-3 minutes avec des choses peut-être un peu inhabituelles, avant d'échanger tous et toutes ensemble, je vais vous proposer d'échanger d'abord par deux, avec votre voisin ou votre voisine, mais pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Et pendant juste 2-3 minutes, de dire à l'autre ce qui est OK pour vous de partager, de voilà, comment ça résonne pour vous, c'est ce que vous avez entendu et ces questions. Et ce qu'on vous propose, c'est que la personne qui écoute, elle écoute silencieusement, sans rien répondre, juste écouter en étant là. Et d'ici 2-3 minutes, on vous dira que c'est 2-3 minutes d'échanger. Et après, on échangera tous et toutes ensemble. Si vous en êtes, OK. Donc voilà, je vous laisse vous mettre par deux avec personne que vous connaissez, pas forcément. Et juste voilà, comme ça, voilà, comment ça résonne pour vous et deux personnes sans la paix. Thank you.
vous l'avez passé la CE, je vous invite tranquillement à finir votre phrase et à échanger avec les personnes. Merci. Je vous invite à finir tranquillement votre phrase ou votre phrase. Et voilà, je ne sais pas ce que vous voulez partager à toute la salle sur l'essence du soin, sur ce que, comment ça résonne pour vous, ce que ça vous évoque.
Je ne sais pas, est-ce que c'est malaise? Peut-être c'est pas malaise, peut-être c'est souffrance, peut-être c'est mal-être, peut-être c'est difficulté aussi. Des fois, on a aussi tendance à, je ne sais pas, par l'environnement, par la fatigue, par plein d'éléments à surévaluer peut-être des ressentis qu'on a. Mais je peux parler personnellement. Alors, pour nous, c'est un peu particulier parce qu'on travaille dans un centre de lutte contre le cancer. C'est pas le cas de Margot, mais moi ça fait 10 ans que je travaille dans un centre de lutte contre le cancer. Donc vous avez vu qu'il y a des textes, notamment qu'elle a lu, mais moi aussi il y a eu quelques chansons qui étaient plus ou moins à la sortie ou pendant le Covid, et c'est plus le cas pour le livre de Margot, Le cri du cœur, qui est vraiment sorti après cette période Covid. Donc je vais parler pour quelqu'un qui travaille dans un centre de lutte contre le cancer depuis 10 ans et qui travaille à la fois du côté de l'anesthésie et de la réanimation. C'est-à-dire de l'anesthésie quand on voit les gens, les personnes arriver en consultation parce qu'ils sont au début d'une prise en charge de leur maladie, avec à la fois la difficulté, tout le fardeau que ça représente, mais aussi tout l'espoir. Et ensuite, le côté réanimation, où malheureusement, il y a progressivement, en tout cas dans la maladie cancéreuse, et en tout cas dans la prise en charge que je connais localement à Clermont-Ferrand, une déviance du rôle de la réanimation qui n'apparaît finalement plus réellement comme support vital pour un épisode temporaire, ce qui est normalement le cas le rôle de la réanimation, c'est-à-dire de venir se substituer à vos organes défaillants le temps que cette défaillance soit résolue, soit par un traitement, soit par une prise en charge chirurgicale, soit par le temps, parce que des fois il suffit juste du temps. C'est cette impression que la réanimation arrive dans une succession, une addition de gestes, d'actes, de traitements qui ont oublié le rôle de la médecine et qui se sont concentrés sur une succession d'éléments physiques et techniques pour oublier le patient en tant qu'être humain, prendre en charge le patient comme une addition de fonctions et qu'on substitue quand elles sont défaillantes. Et donc nous, ça nous fait arriver en oublie, puisque quand il y a une forte défaillance, on arrive en réanimation, mais peut-être que quand il y a une forte défaillance dans une prise en charge de cancer, malheureusement, c'est peut-être juste que le corps ne peut plus, mais c'est plus une histoire de défaillance temporaire, c'est une histoire de défaillance terminale. Et en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un parcours et de devoir initier des réflexions, parce qu'on est au pied levé, parce qu'on est devant le mur, un travail et une discussion qui aurait dû être entamée, mais bien auparavant.
Merci. Dans la suite de ça, moi, ma lettre, ça me parle quand même, même si ma lettre est souffrance aussi, qui m'ont conduite à démissionner en fin d'année dernière, mais ma lettre, ça me parle beaucoup, et même parfois plus, enfin, j'irais même plus loin par absurde. Dans ta suite, il y a. Moi, j'en étais arrivée à un stade où je me disais que j'avais l'impression que parfois une grande partie des patients en réanimation n'avaient rien à faire là. Comme si j'arrivais 15, 20 ans trop tard et que notre société avait cassé ces êtres humains et qui finissaient par arriver en réanimation, mais qu'ils n'auraient rien eu à faire là si on avait pris soin de toutes ces personnes bien avant. Et également pris soin du système de santé dans le maillage territorial et le soin plus au contact des populations qui probablement pour un certain nombre de patients aurait permis que leur maladie soit prise en charge avant qu'ils n'arrivent en réanimation. Donc il y a aussi quand même ce malaise, voire même ce sentiment d'absurde parfois.
Oui, un petit témoignage à la suite de pas mal de séjours hospitaliers au cinéicycle au CHU Toulouse en pneumologie, c'est la chose suivante, c'est l'essence du soin pour un patient, c'est tout d'abord la clarté et l'accessibilité du propos et la délicatesse qui est mise pour que l'on comprenne qu'est-ce que l'on va vous faire, pourquoi et dans quelle perspective. Ça, c'est la première fois. Et il y a à travers ce propos quelque chose qui n'est plus simplement du domaine de la science médicale, mais qui est de la simple humanité. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'essence du soin, ça vous paraît un peu curieux, c'est la réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a un soignant qui entrait dans la pièce ce matin, je lui demandais comment il allait. Alors ça avait l'air de dire de mettre les choses à l'envers. C'est pas aux patients de faire ça. Normalement, c'est plutôt dans l'autre sens. Et en même temps, quand un interne disait la nuit a été dure ou autre, les quelques mots d'échange, parce que c'est toujours un peu suivi avec le travail qu'ils ont, il y avait quelque chose de plus, c'est-à-dire l'essence du soin, c'est la manière dont on peut partager la manière dont l'autre aussi gère en prendre soin.
Merci. Il y a peut-être d'autres personnes qui savent d'autres choses.
Moi, je suis soignant. J'ai été soignant pendant 40-50 ans. Et tout ce que vous avez dit, aussi bien dans les textes de Margot que les chansons de Guillaume, ça ne fait que me parler. Les réveils en pleine nuit pour aller faire une réanimation. L'annonce, la consultation d'annonce. Et ces patients qu'on n'arrive jamais à retrouver, qu'on n'arrive jamais à approcher. Et le petit échange qu'on a eu, merci de nous avoir permis cet échange avec mon voisin, m'a fait comprendre que l'essence du soin, c'est peut-être la sérénité. La sérénité d'abord du patient, mais également du soignant. Et la sérénité de A à Z. Sauf qu'on n'a pas toujours les outils, nous, en tant que soignants, pour accéder à cette sérénité, et on est des hommes, des femmes, avec nos émotions, avec nos peurs, avec nos angoisses, nos transpositions. Et voilà. Donc, mais quand même, je crois, malheureusement, je compte sur les doigts de la main des patients qu'on a pu accompagner jusqu'au bout, dans la sérénité, parce que ça nécessite justement une complicité soignant-soigné qui est rarement atteinte, mais je crois qu'il sent du soin là, arriver à cette paix, quelle que soit la maladie, quel que soit le moment.
J'ai une autre question. Sans monopoliser, je voudrais quand même dire qu'on entend beaucoup parler d'incivilité. Dans le milieu hospitalier, envers les docteurs, envers les infirmières, infirmiers et les aides-soignants. Donc, je voudrais voir comment vous vivez ça, si vous avez eu des problèmes de ce côté-là.
Oui, je voulais faire remarquer, pour m'avoir fait soigner assez souvent aussi, de la complicité qu'il peut y avoir entre le malade et son soignant, qui est, à mon avis, un élément qui permet au malade de guérir plus vite. S'il y a une complicité entre les deux, entre celui qui a mal et celui qui soigne la souffrance, eh ben, on l'oublie un petit peu.
Ben ça, merci, parce qu'en plus, maintenant, il y a quand même de nombreuses études scientifiques qui le montrent, que la compassion, alors qu'on peut appeler par plein de termes différents, améliore la récupération dans de nombreuses maladies. Donc c'est pas voilà, c'est effectivement maintenant prouvé scientifiquement, mais bon, ça reste difficile à faire passer comme message, et c'est aussi sans doute aussi dans la société dans laquelle on est. Enfin, aujourd'hui, en France, les actes de soins sont rémunérés de façon technique, et c'est le temps qu'on prend pour parler n'est pas rémunéré. c'est ça qui est difficile, et les incivilités,
Oui, enfin, après, je ne sais pas si c'est des... Moi, c'est... je ne dirais pas forcément que c'est des incivilités qui ont pu me blesser, mais plutôt des incompréhensions, en fait, des moments où on n'arrive pas à se comprendre et où il y a une certaine agressivité de certains patients, patientes, familles, et en même temps, que je pouvais tout à fait comprendre, mais qui, bah, j'étais la personne sur laquelle elle pouvait s'exprimer, mais manifestement pas forcément la bonne. Mais que oui, je pense que les soignants, mais aussi d'autres services publics, finalement, sont les seuls représentants parfois de disponibles, entre guillemets, pour exprimer une certaine colère, incompréhension ou autre. Et c'est vrai que ça, bah, c'est pas pour ça qu'on a fait ce métier, on n'a pas forcément les clés, les outils, donc parfois ça engendre des situations compliquées.
Ouais. Ce que je différencierais, c'est pour avoir vécu des situations différentes. Alors nous, en tant qu'anesthésiste réanimateur, pendant notre formation, puis pendant les premiers temps, on fait aussi beaucoup de SAMU. Donc quand on fait du SAMU, on est aussi amené à se retrouver dans des zones qui sont quand même vraiment défavorisées, dans des zones vraiment oubliées, où là il y a quand même une forme de, il y a clairement une forme de danger par une violence du lieu dans lequel on se trouve. Je sais pas, j'ai des souvenirs à Toulouse où d'ailleurs des violences imaginées ou des violences réelles. De toute façon, les deux en plus ont la capacité de s'additionner de manière assez forte. Et donc ça, c'est des choses qui sont difficiles parce que déjà, on a la perception que l'on ne se retrouve pas en situation de pouvoir vraiment soigner les gens pour lesquels on est appelé. Et ensuite, il y a des situations de... Là, maintenant, je parle, c'est-à-dire avec un patient ou avec la famille d'un patient, ou des phases d'incompréhension, d'incompréhension culturelle, d'incompréhension linguistique, d'incompréhension émotionnelle, peuvent engendrer des situations de conflit. Par exemple, j'ai le souvenir, c'est un peu pour rebondir sur le texte sur les gitans, mais je trouve que c'est un bon exemple. Je me souviens d'une nuit où on avait en réanimation un patient qui était un chef gitan, on va l'appeler comme ça, et qui était vraiment très mal, quoi, qui était pas loin de mourir. Et j'ai appelé son fils, je crois que c'était son fils, et je lui ai dit, là vraiment je suis inquiet pour lui, il me dit ok, d'accord, bon, on vient le voir, on l'accompagne. Donc bon, il rentre et puis il me dit, bon là par contre, quand il meurt, parce qu'il me dit comment ça se passe. Ben, je lui dis comment ça se passe. Il reste dans le box de réanimation, puis ensuite on a une morgue, donc il ira dans la chambre mortuaire. Ah non, ben, il revient directement dans le camp. Et moi, à un moment, c'était compliqué parce que c'est 3h du matin. Bon, déjà, c'est pas le seul patient qu'on avait en réanimation, il y en a 15 autres. Déjà, lui, il est en situation grave, donc on est en train de faire tout pour le réanimer et puis lui permettre de vivre, parce que d'ailleurs, il a survécu. Mais ça, c'est pour montrer l'absurdité et comment une situation peut dégénérer. Ce soir-là, c'était compliqué. Et donc, je lui dis, mais comment ça me vient ? Moi, il est hors de question. De toute façon, si ça ne se passe pas comme ça, moi, je rappelle tout le camp, on débarque ici. Donc là, vous êtes dans un service de réanimation à gérer des patients, et en plus, vous êtes en train de me dire, mais en fait, moi, j'ai réfléchi 2 secondes. Bon, mais moi, qu'est-ce que ça me fait s'il va dans la chambre mortuaire ou dans sa caravane ? Je m'en fiche. Donc je lui dis, bah, ok, pas de problème. Moi, si vous avez un ambulancier qui transporte son corps à 2h du matin ou à 3h du matin, ben, aucun problème. De toute façon, je n'ai pas d'obligation. Enfin, j'ai une obligation de faire des papiers, un certificat d'essai. Et je me suis toujours demandé, mais
si j'étais resté sur les protocoles à dire non, il va à la chambre mortuaire, parce que les gens, ils vont tous à la chambre mortuaire, alors que c'est idiot. Ben, je veux dire, quelle est la règle universelle qui dit que quand on est mort, on doit aller à la chambre mortuaire? Ce gitan, on était dans une situation qui aurait pu devenir une vraie situation conflictuelle, mais quand je dis conflictuelle, ça, je sais comment ça se passe avec certains de mes collègues, c'est j'appelle la police, donc ça y est, il y a la police arrive, parce qu'il y a un gitan qui a été violent dans ses propos, qui m'a menacé. Réellement, je ne peux pas dire qu'il m'avait menacé, c'est pas vrai, il ne m'a jamais menacé, il a juste exprimé quelle était sa culture. Mais voilà, voilà ce que ça peut être, et voilà aussi comment il y a des situations qui peuvent devenir dangereuses juste parce qu'en tant que soignant, on n'a pas été formé à gérer des situations conflictuelles ou à gérer sa communication. C'est vrai que tout ça, c'est fini. Mais bon, non, c'est pour... Voilà, c'est...
Oui, et des fois, on est voilà, maltraitant ou maltraitante malgré soi. Et finalement, avant, on était dans une culture dite paternaliste où finalement on confiait sa vie aveuglément aux médecins et on change cette culture. Mais quand on dit une information claire, loyale et appropriée, parfois il y a comme une sorte de un peu d'hypocrisie qui n'est pas visible ni portée par personne, on dirait. Où on a parfois 15-20 minutes de consultation pour parler de choses qui parfois peut-être devraient prendre 3 semaines. Et voilà, on dit qu'on a évoqué telle ou telle chose en 3 minutes, qu'on a fait signer un papier, mais est-ce que cette information elle est claire, loyale et appropriée via certaines choses? Non, 3 minutes ou 20 minutes ou même 30 minutes, ça suffira pas. Et ça, c'est comme un peu invisible, enfin, on ne sait pas par qui c'est porté. Et ça crée des incompréhensions.
Oui, parce que quand même, je pense que c'est ce qui fait qu'on tente de porter un autre discours, enfin une autre parole, c'est que quand même, au fond de moi, je pense quand même que le système, parce que je ne vais pas dire les soignants, mais le système de santé est quand même plus violent avec ses utilisateurs ou les patients, je ne sais pas qui c'est qu'il faut dire, ou les soignants d'ailleurs, que les patients sont violents ou agressifs envers les soignants. Je trouve que le premier agresseur, c'est quand même le système qui a déformé, quoi, qui déforme, je pense, une majeure partie des convictions et des intentions des soignants et peut-être même des patients.
Si vous avez d'autres envie de prendre qu'on parle un peu moins.
Oui, je suis désolé, j'ai été soignant aussi. Je ne voudrais pas qu'on reste uniquement sur cette sensation qu'il y a une souffrance des soignants. D'abord, on a un système de santé qui est effectivement souvent violent, etc. Mais enfin, on a un système de santé qui marche pour la grande majorité des gens. Deuxièmement, on est réunis là aussi pour savoir quel est le sens du travail. Ce qu'on donne, je trouve qu'on a la chance en soignant, enfin, quand on pense au sens de sa vie, etc., du malaise, du tas de professions. Certes, on a beaucoup de malaise dans sa profession, mais enfin, globalement quand même, moi j'étais très content de la pratiquer. J'ai fait aussi de saluer des belles choses. Mais bon. Voilà, je ne voulais pas qu'on reste uniquement sur cette sensation que c'était extrêmement douloureux, pénible, malaise, je crois.
Oui, je suis d'accord. Je crois que c'est...
Je suis soignante actuellement, je suis pas à la retraite, et je vous remercie de remarquer le fait que pas parler que du mal-être, mais c'est mal-être qui est une génération et le futur. Donc, les jeunes internes, bon, ça fait déjà 10 ans que je travaille, remarquent ça de plus en plus. Donc, je vous remercie de le crier haut et fort. On n'est pas bien. et on essaye de faire de notre mieux pour rester là, les pieds par terre, là où on était quand on a choisi ce métier, parce qu'on veut arriver les jours de la retraite, dire comme vous, la tête haute, je suis heureuse d'avoir fait ce métier. Mais on a envie de le dire à la fin de notre parcours. Et là, on se demande si le système va nous amener là. Si ma collègue dit qu'elle a eu du mal, qu'elle a démissionné à un moment donné, poser des questions, c'est qu'elle n'est pas bien. Donc, non, le système ne va pas bien. L'essence, qu'est-ce que l'essence de soins pour moi? L'essence de soins, c'est quand j'arrive à pouvoir aider les patients à sentir qu'il peut s'aimer, qu'il peut se prendre dans les bras, qu'il peut lui aussi s'aider, se remonter les manches pour se sentir mieux dans son corps et dans son âme. Mais des fois je n'ai pas le temps, des fois je cours, des fois je pose des dossiers en sachant que je passerai le voir à 19h. Et puis c'est 21h, et puis c'est le lendemain, et ça... Donc oui, je me pose la question, mais est-ce que je soigne des femmes, je soigne que des femmes, mais qui portent des bébés, et donc je soigne deux personnes à la fois. À la fin, je l'oublie un, c'est pas oublié quand même, mais les deux. L'essence de soin, pour moi, elle est là. C'est quand la personne sort et avant de fermer la porte, elle a pu, j'ai pu ressentir que oui, elle s'est prise en charge. Elle n'est pas toute seule. Mais je ne suis pas toute seule non plus. Ou l'infirmière qui travaille avec moi, ou la sage-femme qui travaille avec moi, elle n'est pas toute seule dans son coin à essayer de faire du mieux pour elle. Mais il y a une équipe qui englobe les malades. Pour moi, c'est ça la médecine des hôpitaux, c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue.
Merci. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie d'interagir, de partager.
Déjà, je voudrais vous remercier pour cette soirée. La très grande qualité de ce que vous proposez. Je suis très impressionnée. Merci. Alors moi, je suis soignante aussi. Et pour moi, l'essence du soin, je crois que c'est le lien. Le lien qu'on peut construire avec le patient. Mais à y réfléchir, c'est aussi, pour moi, l'essence du soin pour soigner. Ouais, vous posiez la très jolie question, c'est de savoir comment prendre soin de cette essence. Et ben je crois que c'est vraiment, voilà, je rejoindrai madame pour avoir aussi une réflexion d'équipe autour de ce lien, de ce qu'on propose. Et ça demande du travail, ça demande du temps. Donc de ne pas se laisser prendre non plus par la machine qui effectivement croit et nous demande d'être efficace, d'être dans l'immédiateté, de trouver des solutions là où parfois il faut beaucoup de temps pour pouvoir aussi s'extraire de ça.
Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des expériences.
Oui. Je ne suis pas soignant, je suis accompagnant de soignant. Comme on dit, accompagnant de soigné. J'ai beaucoup aimé votre réflexion autour de ce chef, au sens du chef d'une tribu. C'est-à-dire que l'on arrive quand on est soigné, quand on est malade, on attend du modèle, on attend du système qu'il nous prenne en charge, mais qu'il prenne aussi en charge le d'où on vient. Et je trouve que souvent, ce temps-là, n'existe pas, ces lieux-là existent peu, et que la machine qui broie aussi cette possibilité de rencontre avec l'essence de la personne, avec sa spiritualité aussi, et avec ce qui la constitue entièrement. Et en tant qu'accompagnant de soigner, qu'effectivement, il a fallu souvent pousser au sens physique le soignant dans des retranchements pour lui permettre d'accéder lorsqu'il rentrait dans la chambre à cet ensemble-là. Et c'est là où cela peut être parfois désagréable pour le soignant, évidemment, qui n'a pas envie de se poser ces questions, il n'a pas le temps. On ne lui permet pas d'avoir le temps. Il rêverait certainement de le faire. Et puis, le besoin aussi de se tenir à distance. Et ce besoin de se tenir à distance, il n'est pas enseigné dans la médecine, malheureusement. Et pendant ce qu'on appelle la carrière, vous êtes, me semble-t-il, très peu accompagné à l'intérieur du système pour prendre ça en charge, pour le prendre en charge au quotidien. Et donc vient le deuxième rôle de l'accompagnant et du soignant, c'est-à-dire de l'espace de la famille, de l'amitié, etc. Quel rôle il peut avoir et comment est-ce qu'il rend la personne capable de prendre soin? Parce que dans prendre soin, il y a prendre la préoccupation. Le soin, c'est une préoccupation, une pensée que l'on porte aussi. Et donc, vous prenez beaucoup soin des personnes qui sont malades. Et à un moment donné, comment vous déchargez la musique? J'ai pas mal d'amis artistes qui disent sans l'atelier, je ne tiendrai pas. Donc, transformer, transcender ça. Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'accompagnant, en tant que société, prendre soin de nos soignants au quotidien pour leur permettre de décharger cette peine, souffrance, fin de vie ou un moment aussi intense pour leur permettre de durer, combien c'est déjà, 40 ans que vous travaillez, 45, 50, 55, non, il n'y a pas de limite, je crois, dans le monde des soignants. Ça peut être effectivement très long et pour avoir cette sensation en fin de carrière d'avoir été au bon endroit et d'avoir pu retrouver cette énergie continuelle, eh bien, il nous faut en tant que société, donc y compris en tant que décisionnaire, prendre soin non pas du système point, mais du système et de ceux qui tiennent le système, même quand il y a des grosses brèches partout. Voilà.
Peut-être juste pour rebondir, ou peut-être pour apporter une autre voie de réflexion. On s'est demandé comment on écrivait l'essence. Voilà, c'est ça, en un mot au pluriel. Parce que dans l'essence, il y a aussi le côté, pour moi, moteur. C'est-à-dire, il n'y a pas que le côté, le sens, est-ce que ça a toujours du sens, mais c'est aussi qu'est-ce qui me pousse. Qu'est-ce qui me donne de la force? Il y a des fois, il y a des choses qui détruisent, quoi. Et oui, il y a des choses qui cassent tous les jours. On se retrouve. Je vais reparler des conditions des soignants, parce que de toute façon, elles sont très variables d'un endroit à l'autre. Et c'est très compliqué de comparer des carrières si on n'a pas été exactement dans les mêmes conditions salariales ou pas salariales. D'un établissement, on voit bien, les établissements, ça marche très bien, puis il y a des changements de direction, de personnes, et puis tchac, ça y est, ça marche plus, d'un service à l'autre, d'une équipe à l'autre. Mais par contre, on peut avoir démissionné et puis être convaincu qu'on est toujours soignant, qu'on veut continuer à soigner, c'est juste qu'on peut juste vouloir changer les conditions de son travail ou de trouver d'autres formes. Et je trouve que dans l'essence, ben, il y a un moteur, quoi. Il y a un moteur, c'est le patient, c'est le lien, effectivement, ça c'est sûr. Mais c'est aussi des choses qui nous apportent de l'énergie en tant que soignant. C'est-à-dire, il y a une satisfaction qui est très forte pour dire que oui, même s'il y a des moments difficiles et on n'est pas tous frustrés ou tous dans la perte de sens, justement, c'est le patient qui donne tellement de sens et tellement d'essence. À ce qu'on fait. Donc je sais pas, ça a été déjà dit, quoi, c'est-à-dire c'est la confiance. Juste un exemple, par exemple en anesthésie, moi j'entends tout le temps des gens qui disent oui, mais
vous avez choisi l'anesthésie ou la réanimation, de toute façon, il ne parle pas, il dort. Alors que souvent, je leur dis, ben non, mais c'est pire. Parce que l'anesthésie, on a une consultation pour créer du lien, créer de la confiance, pour quand même une situation qui est critique. Quand vous arrivez, vous perdez tout moyen de contrôle sur vous et vous donnez à quelqu'un. Dans l'essence, il y a aussi ce lien, cette force, mais qui n'est pas qu'un sens pour nous, qui est vraiment un moteur. Voilà, c'était juste s'il y a des gens qui veulent rebondir sur le côté moteur et pas forcément.
Oui, moi je veux bien revenir sur ce que tu as dit, Guillaume. En fait, par rapport à l'essence et l'essence, donc les deux façons de dire ça, j'avais pas perçu ça comme ça, parce que moi je pensais à l'essence, le monteur. Mmh. Moi qui étais ancien infirmier, j'ai démissionné aussi à la fin de l'année dernière, parce qu'en fait, j'avais plus d'essence, quoi. L'essence de plein monteur, j'avais plus de. Alors, j'aimais beaucoup la relation avec les patients et passer beaucoup de temps avec des gens, mais j'avais plus de. Je pense que le système, à force, m'a usé, j'avais plus d'énergie pour les gens. Voilà. Mm-hmm. Alors que ce que je faisais, je pense, avait du sens, justement. Mm-hmm. Et, voilà. Comme quoi, du coup.
Oui, et malgré tout, c'est une réalité. Ces dernières années, il y a de plus en plus de services qui ferment. Et c'est par manque de soignants et soignantes, clairement.
Je vais vous raconter une petite histoire. J'espère que ça fait rire. J'ai passé une dizaine de jours à l'hôpital. Et ça s'était très bien passé. Moi, j'étais ravi, j'ai rencontré des gens, etc. Je suis sorti à peu près guéri. Et je suis revenu 15 jours après pour un contrôle, je ne sais pas quoi, je ne m'en rappelle plus. J'ai vu, je crois que c'était l'interne qui était très sympa, qui discutait avec moi. Et puis, il m'a dit, faut que vous voyez le docteur qui vous a soigné. Alors que ce monsieur arrive, mais fatigué, hérité, il me regarde et puis il me dit, mais c'est pas moi qui vous ai soigné. Non, c'est certainement votre collègue. Et alors, il prend son téléphone, il téléphone au troisième étage, au quatrième, je ne sais pas où c'est qu'il est, et puis il dit, mais c'est pas moi qui est monsieur Machin, mais non, on s'est trompé. Et alors, c'est moi qui dois me coltiner, monsieur Machin. Et alors, ça me fait rire, parce que je le voyais complètement épuisé, et en réalité, il est parti à la retraite un mois après.
Non mais ça c'est une réalité quand on souffre, tout le monde a expérimenté que quand on souffre, on n'est pas capable d'accueillir la souffrance de l'autre.
Et franchement, j'étais très devenu, j'ai pas du tout été gêné par ce qu'il m'a dit. Mmh. Parce que je voyais bien qu'il était perdu. Je voyais bien qu'il était complètement fatigué, perdu, voilà, et que en plus, on vient de me dire que ça tout allait très bien et que c'était guéri. Bon, donc, voilà, et je l'ai, mais j'aurais été effectivement comme lui fatigué, alors ça serait oui. Et donc, ce monsieur, il est venu me voir après, et j'avais dit, voilà. Et il n'a jamais pu se s'occuper de moi.
C'est vrai que moi je trouve ça très inquiétant, il y a une réelle fatigue des soignants, même très jeunes. Pour moi, deux impacts, hein, effectivement déjà de se dire, est-ce qu'on va avoir des soignants? Est-ce qu'on va avoir des soignants quand on est vieillissant dans une petite ville comme celle où on habite, c'est que ça devient très très compliqué. Il y a ça, et puis il y a l'autre chose, c'est que moi, en tant que soigné, quand j'arrive face à un médecin en particulier, je sens maintenant que j'ai ça en tête très fortement, et que je me dis, bon, attends, là, il ne faut pas que tu pèses trop, il ne faut pas que tu prennes trop de temps. Maintenant, on a des écriteaux qui disent, vous venez, mais pour une raison, pas deux. Donc, un motif de consultation. Alors, sachant que, par exemple, parfois, il faut un an pour avoir une consultation. Donc, quand on arrive avec, au bout d'un an, mais finalement, on en a deux. Donc, moi, je me dis, maintenant, je ne peux pas lui parler de deuxième. Donc, j'attends un an de plus pour pouvoir lui parler de mon deuxième motif. Et c'est, voilà, je veux dire, ça impacte, pour moi, ça impacte fortement le lien. Quoi.
Merci, parce que j'avais jamais conscientisé ça, là, quand on était là, et ce que j'entends dans une vision un peu plus politique, c'est une forme un peu perfide de diviser pour mieux régner. Mais qui, ouais, je sais pas si ça parle à d'autres.
Moi j'ai d'autres chansons qui sont super aussi, qui sont super joyeuses. Bon déjà, il faut faire la part dans ce que j'ai écrit. Il n'y a pas que des choses personnelles, il y a aussi des choses que j'ai pris d'autres personnes, que bon, j'écris à mon compte, mais qui ne sont pas réellement. Mais par exemple, cette année, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Nous, bon, on a des formes de garde, donc on travaille la nuit, et puis on a des internes avec nous. Et j'ai une interne qui m'a expliqué comment elle avait eu, par exemple, des idées suicidaires à la suite de surmenage dans un hôpital périphérique où elle était laissée toute seule. Donc sa vie, c'était garde, travaille la journée. Est en cardiologie, enfin, elle est toujours en cardiologie, travaille la journée, garde la nuit, un petit peu de récupération, mais il fallait quand même, et ça pendant 6 mois. Elle est arrivée à un épuisement total, et elle m'a expliqué, hein. Enfin, moi j'étais sidéré, quoi, pendant cette garde, de pouvoir discuter avec elle. Donc, non, mais l'idée c'est de pas dire que le système brise tout le monde, mais l'idée aussi c'est quand même d'essayer de déconstruire. À la fois pour les patients, parce que c'est, moi je pense qu'on défend, quand on voit ce qui ressort là, de nos discussions, c'est, on se retrouve, on cherche du lien, c'est le lien, quoi, il y a beaucoup de liens, de la confiance, c'est des mots qui sont quand même tous assez proches les uns des autres. Et pour créer du lien, il faut être disponible, et puis il faut être, accessible, voilà, chercher le mot. Et pour être accessible, oui, il faut être en phase. Et donc l'idée, c'est aussi de nos discours, c'est pas que de dire qu'on souffre, mais de pouvoir dire qu'on souffre. Voilà, ce que je voudrais pas, c'est que le discours ne ramène qu'à la souffrance et à la souffrance en tant que telle, parce que c'est pas ça l'idée. C'est aussi de dire, si on est capable de dire qu'on souffre, ben, on est comme vous.
C'est humanité.
Voilà. C'est-à-dire un médecin qui est capable de dire qu'il souffre, ben, je pense que c'est un médecin qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus disponible pour un patient qu'un médecin qui n'est pas capable de dire qu'il souffre. Parce que s'il n'est pas capable de dire qu'il souffre, ça veut dire qu'il a une idée quand même, ou une conception, ou un héritage d'une situation à tenir. C'est quand je dis « docteur est fort, papa assure, docteur est fort ». Voilà, donc non, mais soyez confiante pour votre petite fille. Il y a aussi plein de gens qui sont bienveillants, je ne sais pas, notre image aussi, j'espère, avec les étudiants et qui sont passionnés. On reste passionné, c'est pas passionné. Et puis, avec la dernière chanson et le dernier texte aussi, on reste optimiste pour l'avenir. Enfin, voilà, je vous dis pour.
Oui, merci. Voilà, moi dans le livre je raconte, c'est mon journal de bord du Covid, et donc à la fin je reviens dans le système. Bon, entre temps je vais essayer de prendre d'autres chemins, mais l'idée c'est aussi un peu une vision médicale. Ça c'est des histoires que je me raconte, mais on ne se soigne pas tant qu'on n'a pas reconnu qu'il y a une maladie. Et en fait collectivement je crois qu'il y a une vraie maladie. Et donc, si collectivement, on ne reconnaît pas qu'il y a une maladie, je ne vois pas comment on va se mettre à la soigner collectivement. Et donc, c'est vraiment ça l'idée de notre propos, ce n'est pas d'être doloriste ou de juste dire on souffre. C'est l'idée, c'est de se mettre à l'action à partir de ça. Et tant qu'on fait semblant que tout va bien, bah, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Et ce que je raconte aussi dans ce livre, qui va, moi, je suis une grande optimiste, mais je peut-être là, ça ne se voit pas. Au début du Covid, moi j'ai eu un peu la chance, enfin, voilà, de partir 2 semaines et demie à Strasbourg, aider, j'ai surtout appris et été là en soutien, parce que quand on débarque, on n'est pas non plus d'une aide incroyable. Mais j'ai été aussi dans un hôpital périphérique, j'ai été en lien avec quelques réseaux divers, et ce que j'ai vu en mars, et au mois de mars et d'avril 2020, j'ai trouvé ça incroyable. La résilience collective et combien au niveau local il y a énormément de choses qui se sont faites. Donc je pense qu'on a une grande force, une capacité de coopération incroyable, mais qu'on a besoin de la mettre en œuvre.
Si tu me permets, Margot, je voudrais effectivement enfoncer le clou sur ce que tu as dit, parce que ma carrière professionnelle m'a donné la possibilité d'avoir des responsabilités, et en particulier de rencontrer une politique. Et je ne pense pas tout à l'heure, ou alors j'ai mal compris ce qui a été sous-jacent, je ne pense pas, en leur âme et conscience, que la situation que nous vivons est orchestrée. Elle est certainement la conséquence de mauvaises décisions et de mauvaises perceptions, mais je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin. Par contre, effectivement, et c'est vrai que je fais le lien, et je peux être moi un petit peu comme Georges, je crois que j'ai été très épanoui dans ma carrière. Hein. Aussi, ça, j'ai fait souffrir mes proches, mais personnellement, j'ai été très épanoui. Mais cette souffrance que vous dites aujourd'hui, il faut effectivement la dire, il faut la crier, et il faut la crier à nos politiques et leur expliquer. Parce que souvent, les décisions sont prises un petit peu loin du terrain, loin de ce qui s'est passé, loin de ce que les soignants et les soignés peuvent comprendre, parce que malheureusement, et c'est un petit peu la conséquence de ce qu'on fait aujourd'hui, c'était plutôt guidé par un chemin financier qu'un chemin humanité. Malheureusement, même si cette humanité était souhaitée.
Je voulais dire, pour élargir un petit peu, il y a les professionnels de santé, mais il y a aussi, comme soignant, tout l'entourage des patients. Et enfin, moi, j'ai une sœur que je considère comme une soignante, qui s'occupe beaucoup mieux que je n'ai pu le faire de mes patients. Enfin, donc oui, le soin, c'est prendre soin de l'autre. Hein. C'est pour élargir un petit peu. Et on a parlé beaucoup des personnels soignants, mais tout le monde est impliqué dans le soin.
Voilà, je voulais juste dire ça.
crois que je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je pense que c'est la finance qui gouverne un peu la santé depuis un certain nombre d'années. Lorsque, si on remonte aux années jubées, si on se souvient bien que le raisonnement c'était si on diminue l'offre, il y aura moins de demandes. Bon, ces gens sont assez diplômés, ils savent vraiment ce que ça veut dire derrière. Bon, de la même façon, au début des années 70, c'est quand même la première. Les représentants des professions médicales qui ont négocié avec le gouvernement le numerus clausus, contrairement à ce que disait quelqu'un l'autre soir, c'est quand même une politique malthusienne qui venait de la part des professionnels, et évidemment ceux qui nous gouvernent ont un intérêt financier qui nous mène à la situation actuelle, qu'on le veuille ou non. Alors la question c'est qu'est-ce qui va soigner l'hémorragie d'hôpital, parce qu'on est à vie de tempête. Le bateau, bah, les marins s'en vont. Quoi. Donc moi, je suis très très inquiet, effectivement, sur comment on va être soigné dans les années qui viennent. Et ceci dit, c'est aussi bien les docteurs que les infirmiers infirmières que les aides-soignants. Il me semble avoir eu qu'au niveau de la PHP, c'est 12 000 postes d'infirmières qui ne sont pas pourvus. 12 000 sur Paris. C'est énorme. Moi, je ne crois vraiment qu'il y a un plan de démolition de la, on va dire, de ce qui avait été envisagé dans les années 44-45. Tout simplement, il y a un démantèlement de notre système social. Ça s'applique à l'hôpital, ça s'applique également à l'enseignement, et puis on peut continuer. Hein, on peut recruter des profs maintenant, sauf en recrutement en minute, avec bac plus 3. Quoi.
Bon, juste Margot, une petite question. Est-ce que vous pensez revenir vers le soin un jour?
J'ai un projet de, disons, soigner les relations. Voilà, dans une idée de médiation et de facilitation pour essayer de prendre soin du système de santé à un autre endroit.
Oui, alors une question peut-être un peu délicate par rapport à l'évolution prochaine possible de la législation. Vous avez peut-être par vos activités d'anesthésiste-réanimateur été en lien plus ou moins directement avec des équipes de soins palliatifs, donc qui sont on va dire les dernières étapes d'un vivant en quelque sorte. Et est-ce que les dispositifs avec la loi Clay-Leonetti, bien sûr très mal appliqués, puis on voit qu'il y a pas beaucoup de départements où effectivement ils sont suffisamment en place, est-ce que c'était un dispositif législatif qui selon vous convenait bien, ou est-ce qu'il s'agit peut-être aujourd'hui d'aller au-delà vers d'autres formes qui peuvent amener à écourter, je n'utiliserai peut-être pas un autre terme, dans un objectif d'efficience.
Alors, merci pour cette question très complexe, qui me touche beaucoup, parce que j'ai fait un peu de recherche sur les questions éthiques, sur la question des directives anticipées notamment. J'ai fait des ateliers citoyens autour des directives anticipées avec certaines personnes membres de l'association pour le droit de mourir dans la dignité et aussi d'autres associations. Et alors moi c'est ma vie très personnelle, je pense que c'est pas la question finalement, que effectivement c'est plus la question des moyens qu'on donne pour accompagner, que la loi Claeys-Leonetti, bon, certaines personnes disent quand même qu'elle a des limites, mais que surtout on n'a pas donné les moyens qu'elle soit appliquée. Clairement, il n'y a pas de moyens pour les soins palliatifs. Et puis c'est une question sociétale. Enfin, si un délit de la mort et un délit de la peur de la mort sociétale, bah, c'est le même dans le système de santé. Après, bon, on peut rentrer dans des questions plus politiques et philosophiques. Moi, personnellement, je suis plutôt, je comprends le sens de l'euthanasie pour certains cas très un peu extraordinaire. Maintenant, la question de l'euthanasie dans une société néolibérale, c'est dans quel contexte, en fait. Les questions, souvent, on les décontextualise, mais c'est dans quel contexte. Et là, on rentre ensuite dans une chaîne de questions où on aurait besoin de peut-être 2 semaines, 3 semaines pour en discuter, là où les espaces médiatiques n'offrent que 2 minutes. Donc on tombe généralement dans du pour ou contre, et on ne sait pas pourquoi, pour qui, comment. Et c'est là où je trouve que on vient être un peu limité dans le lien, finalement, et le prendre soin et la sérénité.
On a touché
tout à l'heure. Ouais. Hier, je travaillais hier et j'ai. Alors, c'est très perturbant, mais maintenant, on voit des enfants de patients qui sont déjà très vieux. J'étais en train de parler d'une maman avec sa maman avec son fils, donc, et c'est sa maman que j'avais comme patient, et lui il avait 77 ans. Et je suis en réanimation, je travaillais en réanimation. Sa maman, elle avait fait un arrêt cardiaque alors qu'elle était dans une maison de retraite. Et qu'elle avait un peu plus de 90 ans. Et donc, c'est ce que je trouve un peu, difficile, c'est que dans la même société, on doit se prononcer sur comment on doit organiser la mort par anticipation ou juste par liberté, et en même temps, comment on refuse aussi la mort par liberté et par éblouissement ou aveuglement, parce que c'était fou de discuter avec lui. Moi, j'étais peiné, je comprenais sa peine. Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour être peiné, et c'est tout à fait normal, d'autant plus qu'on a un lien fort avec la personne qui est en train de partir. Mais on discutait de la mort, donc de sa maman, et donc il me disait, mais vous comprenez, il y a 2 jours, elle est super bien. Et donc, je ne sais pas si c'était bien pour un médecin de dire ça, mais moi je lui ai dit, mais c'est magnifique ce que vous êtes en train de me dire. Vous vous rendez compte? Mais qui ne rêverait pas, parce qu'on était en train de discuter, d'arrêter la réanimation? Donc de décider d'arrêter de continuer à la faire vivre alors qu'elle était endormie, intubée, hein, et sans état de conscience, sans état d'interaction plutôt, je devrais dire. Et il me dit, mais oui, mais c'est vrai, vous avez raison, moi j'aimerais mourir comme elle, en fait. Et donc c'est ça qui est dur dans cette réflexion, dans ce qu'on nous demande dans cette loi, parce que c'est vrai, vous avez dit aussi les soins palliatifs, mais aujourd'hui qui a accès aux soins palliatifs? Nous, dans le centre de lutte contre le cancer où on travaille, c'est ce que j'essayais un peu de dire à certains moments, là, la dame au bout du fil, c'est vrai, je ne vous ai pas donné le titre des chansons, mais la chanson sur la dame qui, les gens qui la réaliment, ça s'appelle La dame au bout du fil. Et dans notre service de réanimation, il y a plein de moments où on fait le travail des soins palliatifs. Mais les soins palliatifs, il y a très peu de gens qui accèdent. Et puis il y a des gens qui pourraient mourir à la maison, mais qui en fait viennent mourir dans des mauvaises conditions à l'hôpital. Et donc c'est pour ça que cette réflexion, elle doit être bien plus élargie à qu'est-ce qu'on fait de la mort dans notre société, plutôt que, je trouve, nous opposer sur des visions politiques, soit de liberté, soit au contraire. Voilà. C'était juste ce que je voulais dire.
Merci, parce qu'en fait, cette question, je trouve qu'elle vient... moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de difficultés avec des situations où j'avais l'impression que les familles me demandaient d'aller plus loin qu'en équipe on pensait qu'il était raisonnable, que la situation inverse, même si elle s'est posée. Mais j'ai l'impression que c'est la même question. Et que c'est la même question finalement que le système a-t-il été orchestré ou pas. J'ai l'impression que c'est la question de la confiance. Que les personnes que j'ai vues dans cet atelier directeur anticipé, c'est souvent c'était la peur que de souffrir et qu'on ne prenne pas soin d'elles à la fin, qu'elles ne puissent pas avoir leur mot à dire sur leur propre fin. Que dans nos services, la question souvent des familles, c'est qu'on n'a pas forcément confiance que c'est le meilleur soin, qu'on fait tout ce qu'il faut pour aller autant qu'on peut, qu'on n'a plus finalement confiance dans notre système de santé et où nos politiques et nos décideurs. Moi, c'est vraiment ça que ça m'appelle. Et, sauf que se faire confiance, ça demande de prendre du temps, ça demande de se parler. Voilà, comment collectivement on peut essayer de prendre soin, peut-être de renourrir le lien et de retrouver la confiance pour avoir plus de sérénité. J'ai vu que l'heure tourne, donc je ne sais pas s'il y a une ou deux dernières interventions.
Juste deux, trois points comme ça. Ce que vous dites depuis tout à l'heure par rapport à la question du soin du soignant, je me posais la question, moi je suis psychologue et j'interviens auprès d'équipes professionnelles, alors particulièrement auprès d'équipes professionnelles qui sont dans la relation d'aide autour des questions de supervision, justement, d'analyse de pratique. Et je me pose la question, en fait, j'interviens également auprès d'équipes de soignantes, mais c'est bien plus compliqué, la question du lien est bien plus compliquée, la question de la pérennité est bien plus compliquée, et je me pose cette question-là, en fait, comment ça se fait, que ce soit si possible, il y a des financements qui sont mis en place pour les lieux médico-sociaux, les lieux sanitaires du type MAS, maison d'accueil spécialisée. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de financement pour les milieux hospitaliers, parce qu'il me semble que les médecins, les soignants sont dans de la relation de soins, certes, mais avant tout dans de la relation d'aide et travaillent avec de l'humain. Et voilà, je me pose cette question-là, en fait. Qu'est-ce qui fait que ces financements qui sont proposés ailleurs ne sont pas mis en place ou ne sont pas appliqués, en fait, je ne sais pas.
Moi, je dirais qu'il y a ce qu'on dit aussi. Enfin, il y a ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut apprendre aux soignants à dire quand ça va. Bon, maintenant, ça veut dire. Enfin, ça, une partie, ça veut dire, mais pas tous. Et après. Non, mais je ne sais pas l'expliquer, mais Margot doit avoir plus d'idées pour moi. Parce que...
Moi, je crois que c'est qu'on n'accepte pas notre vulnérabilité collective. Et je pense que le système de santé, avec la vision qu'on a, est très performant. Enfin voilà, on a un système de santé, effectivement, qui jusqu'alors est quand même très performant. Mais bon, la limite de la performance, c'est la robustesse. Mais là, on va rentrer dans des débats tout à fait... Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on n'arrive pas à assumer notre vulnérabilité collective. Et qu'on est des êtres humains qui donc souffrons et nous avons besoin de lien et de temps et d'échanger sur nos émotions. On aura beau mettre toute la technique qu'on veut, on est des êtres humains avec des émotions.
Prochaine étape de la médecine. C'est-à-dire que, quand même, la médecine actuelle, elle est très récente. Le progrès technique a tellement été bondissant sur le dernier siècle. Même nous, on a à peine 10 ans d'expérience. Déjà, le travail de la réanimation de l'anesthésie n'est même plus le même que ce qu'il était il y a 10 ans. Et je ne dis pas quand j'ai commencé mes études 10 ans plus tôt, quoi. Donc, je pense que le progrès technique a concentré, parce que c'était aussi magique. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas si vieux non plus, non, je ne peux pas profiter de tout ce qu'il n'y avait pas avant et de tout ce qu'il y a eu après, mais je pense que pour nos enseignants, parce que je peux aussi leur trouver des explications, pour nos enseignants, ils ont eu un tel bon dans ce qu'ils pouvaient apporter aux patients par la technique, que je pense qu'il y a eu un aveuglement collectif sur la technique. Et il n'était pas, et c'est aussi pour ça qu'on peut dire, il n'était pas forcément volontaire de centrer la médecine sur la technique. Mais ça apportait tellement. Et peut-être que maintenant, les progrès techniques vont probablement diminuer. Je ne sais plus qui c'est que j'entendais. Si j'ai un copain qui était dans ma promo à Toulouse et qui est professeur d'orthopédie. Il disait, bon ben là, aujourd'hui, la technique des ligaments croisés, on va pas les révolutionner. Par contre, ce qu'on peut encore révolutionner, c'est comment on prend en charge les patients après, comment... Donc lui, il le voyait d'une certaine forme, mais je pense que justement, tout ce qu'on n'a pas pu voir jusqu'à présent, parce que la technique finalement le débordait, ben, probablement que c'est la nouvelle ère, quoi. Enfin, une partie de la nouvelle ère, parce qu'il y aura l'intelligence artificielle aussi, mais c'est comme ça que j'entends le... Et c'est aussi comme ça que je vois, quand même, parce que les nouvelles générations de médecins, elles changent aussi. Par exemple, nous, je vois dans notre équipe, les nouvelles générations, elles sont pas du tout... elles sont beaucoup plus innovantes que celles qui sont en place, je trouve. Et beaucoup plus innovantes sur la disponibilité, les revendications, les faiblesses, sur ces choses-là. Donc moi, je suis persuadé que ce changement, il arrive.
Ça me fait penser à une anecdote, parce que là, j'enseigne la méditation à des étudiants en médecine de deuxième année volontaire. Et il y a une étudiante qui est venue me voir avec une inquiétude de perdre finalement son empathie au fil de ses études et sa pratique. Et en l'occurrence, il y a des études qui montrent que dans un certain nombre de pays occidentaux, l'empathie des médecins diminue au fil du temps. Mais il y a aussi maintenant des études qui montrent qu'on a des outils, des ressources, des façons de développer cette empathie et de la conserver. Et même on commence à voir qu'il y a plusieurs formes d'empathie, qu'il y a une empathie adaptée qui permet de mieux faire son travail, qu'il y a une empathie plutôt inadaptée qui conduit à la détresse empathique. En tout cas, il y a tout un champ de recherche et d'exploration de ça, et effectivement, probablement qu'on va apprendre à mieux faire à la fois avec la technique et garder certaines compétences humaines et prendre soin du bien.
C'est une belle conclusion.
Narthex.fr. Et si parmi les participants qui ont pris la parole, certains voulaient ne pas apparaître, dites-le nous, écrivez dans les contacts du Narthex pour nous dire s'il vous plaît d'effacer mon
tant pis, on assume.
Alors, bien sûr, comme vous le savez, Margot est aujourd'hui en cours de reconversion professionnelle, elle nous l'a dit. Elle a son projet d'accompagner les soignants et les soignés dans une nouvelle posture autre que l'anesthésie et l'animation. Elle est aussi écrivain et est à votre disposition à la sortie dans le hall pour dédicacer son livre Le sens du care. Par ailleurs, le Narthex ne reçoit aucune subvention, vous le savez aussi, et pour nous aider à continuer à mener ces casettes, les corbeilles sont à votre disposition ainsi que les cruches dans le hall d'entrée, présente pour recevoir pour votre bonne. Merci d'avance pour votre générosité. Je vous rappellerai tout simplement les prochaines séances du Narthex 2023. Vendredi 24, ici, à 18h30 encore, une conférence de Carmine Bauer, qui est professeur en théologie, ambivalence et sens du travail dans la Bible. Jeudi 20 novembre à 18h30, toujours ici. Jeudi 30 novembre à 18h30, également ici, la table ronde Ils ont changé de métier, avec Valentin Artisan, Pierre-Jean apiculteur et Mathilde médecin. Et enfin, le 7 décembre, ce ne sera plus ici, mais à 20h au Centre culturel qui bosse en partenariat avec le Parvis, un ciné-débat autour du film d'Éric Gravel, À plein temps, qui clôturera cette quinzaine d'Artex 2023. Bonne fin de soirée et à bientôt.